l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Présence Midi spéciale été. Durant cette période estivale, nous vous proposons de réécouter les temps forts de la saison radio 2025-2026. Et parmi ces temps forts, Anne-Rose Jankovic avait reçu il y a quelques semaines le frère Charles Benoît et les franciscains du Bronx. Qui sont les franciscains du Bronx? Qui sont connus dans le monde entier? C'est la question qu'opposera Anne-Rose à frère Charles Benoît qui était de passage dans le diocèse de Tarbes et Lourdes il y a quelques semaine. Et puis le père Gabi Lagurgue est implanté au cœur des baronnies à Bourg-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Le père Gabi Lagurgue s'investit dans le monde rural. Il est originaire du Béarn. Il a été ordonné prêtre dans les années 70. Un engagement fort auprès des prêtres du Prado. C'est Benoît Guillard qu'il avait rencontré il y a quelques semaines dans les baronnies, dans les Hautes-Pyrénées. Un entretien à réécouter dans quelques minutes. Et puis on prendra un peu d'altitude direction les Pyrénées et le regard des écrivains sur les Pyrénées avec Anne Lasserre. Cette semaine, l'auteur sélectionné s'appelle Anne Listier. Voilà pour le sommaire de ce Présence Midi qui débute avec l'essentiel de l'actualité régionale et les titres qui sont présentés par Clémence Roux.
Bonjour à tous. À Toulouse, l'homme soupçonné d'avoir agressé plusieurs policiers a été placé en détention provisoire. Le suspect aurait expliqué entendre des voix. L'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances de son geste. Dans les Hautes-Pyrénées, 5 travailleurs en situation irrégulière ont été découverts par la police cachés dans un hôtel de Lourdes. Les enquêteurs cherchent maintenant à connaître leurs conditions de travail. Dans le Tarn, un important incendie a mobilisé près de 170 pompiers dans le secteur de la Cabadère. La chaleur et la sécheresse ont compliqué le travail des secours. En Haute-Garonne, l'État renforce ses contrôles face à des fruits et légumes étrangers, parfois présentés comme français, une pratique dénoncée par les producteurs locaux. Et enfin, la sécheresse fragilise aussi les habitations. À Fourquevaux, plusieurs propriétaires confrontés à des fissures sur leur maison ont décidé de se regrouper. Voilà, c'était les titres de l'actualité régionale. Belle journée à tous sur Radio
Présence. Belle journée également à vous, Clémence Roux. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Allez, à suivre dans un instant, et bien on retrouvera Anne-Rose Jankovic avec la rediffusion de cet entretien avec frère Charles Benoît, franciscain du Bronx. C'est dans 3 minutes dans Présence Midi. Bon appétit à tous.
Il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais?
Et on a qui voudrait revoir la mer.
Y'en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient,
d'autres qui prieraient, ceux qui s'en fichisteraient du plaisir, et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Tout
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Durant tout l'été, nous vous proposons de réécouter les meilleurs moments de l'année. Parmi les meilleurs moments de l'année, voici cet entretien avec frère Charles Benoît, franciscain du Bronx. Entretien réalisé il y a quelques semaines par Anne-Rose Jankovic.
Présence à Toulouse, 97.9.
Bonjour frère Charles Benoît.
Bonjour Anne-Rose.
On est très heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Présence à Lourdes. Vous êtes franciscain du Bronx et vous allez aujourd'hui nous parler de votre vie, de votre mission. Qui sont les franciscains du Bronx connus dans le monde entier? Qui êtes-vous, vous frère Charles Benoît? Comment vous êtes tombé dans cette marmite franciscaine, si je puis dire? Et puis qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le diocèse de Tarbes et Lourdes? Vous allez nous dire tout ça aujourd'hui. Alors d'abord, on va commencer par le tout début. Les franciscains du Bronx, alors c'est un nom qui est connu dans le monde entier, mais en fait votre vrai nom c'est franciscain du renouveau. C'est peut-être bien de commencer par ça déjà.
Voilà, c'est bien souvent il y a un petit peu de confusion, mais c'est aussi ce nom de franciscain du renouveau peut porter à confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire qu'on est en lien avec le renouveau charismatique, alors que non, l'idée en fait c'est de reprendre une parole de Saint François qui sur son lit de mort a invité ses frères à commencer à nouveau. Elle dit, frère, commençons à nouveau, parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait que très peu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre avec le Christ?
Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est ne jamais se considérer arrivé. Et constamment rechercher à se renouveler dans notre relation au Père, en fait.
Alors, si les franciscains du renouveau sont appelés franciscains du Bronx, c'est parce que le Bronx, c'est un nom d'un quartier de New York très pauvre, dans lequel votre communauté, votre congrégation s'est installée. Alors, qu'est-ce que la congrégation est allée faire dans ce quartier-là? Qu'est-ce qu'elle y a vécu? Alors, il faut dire aussi, mais vous allez nous l'expliquer, que les franciscains du Bronx, ils ne vivent pas que dans le Bronx.
Voilà. Donc, le Bronx, c'est là où on a commencé. Ce sont 8 frères capucins de New York, New Jersey, qui ont le désir de retrouver une vie auprès des populations les plus pauvres.
Donc là, on est au début du 20e?
Donc là, c'est en 1987.
Oui, plutôt fin du 20e.
Donc voilà, il y a 38 ans. Et ils sont allés voir l'archevêque de New York, qu'ils connaissaient très bien, mm-hmm. qui leur a dit « Ah bah, enfin, vous vous décidez
!» Ah, ils étaient attendus.
Voilà. Ouais. Et donc, il leur a confié une église d'une paroisse qui venait d'être fermée, en disant, je mets l'ancien presbytère à votre disposition. Et ensuite, il y a eu l'école primaire attachée à la paroisse et le couvent des sœurs qui s'occupait de l'école qui a fermé aussi et qui a été mis à la disposition. Donc, c'est vraiment là où on a commencé. La nouvelle communauté s'est forgée.
Avec tout à faire.
Et voilà, exactement.
Ou à refaire.
Voilà, donc 8 frères. Il y a un frère quand même qui était un petit peu le catalyseur, mm-hmm. Qui connaissait tous les autres et qui les a fédérés. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et donc, il a fallu qu'ils quittent les Capucins pour créer quelque chose de nouveau. En fait, notre habit, c'est l'habit capucin, avec un petit détail, c'est que c'est pas la même couleur. On a un habit gris, mm-hmm. qui est la couleur des missionnaires. C'est pour ça que le surnom des franciscains dans le monde anglophone, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande, ce sont les frères gris. Mm-hmm. Et si on va en Californie, dans toutes les missions franciscaines, les frères, sur les statues, les tableaux, les frères sont en gris. Et donc on a retrouvé, c'est pour ça la couleur des missionnaires.
Et ça c'est important.
Oui, parce que ça fait partie de nos charismes.
Alors justement, frère missionnaire, c'est quoi au fond votre mission? Quand on s'installe comme vous l'avez fait en 1987 dans un quartier où il y a tout à refaire, certainement pas que la vie paroissiale, on commence par quoi? On a quel objectif? Comment on met un cadre? Est-ce qu'à ce moment-là, on sait où on doit aller?
Alors, une particularité, justement, c'est que c'est pas nous occuper de la vie paroissiale. On ne s'occupe pas de paroisse.
De la vie de tous les jours, mais pas de la vie de la paroisse.
On n'est pas responsable d'une paroisse.
Donc vous n'êtes pas curé, en fait.
On n'est pas curé, et ça c'est très clair dans nos textes, c'est à 2 ou 3 endroits différents, nous ne prenons pas de paroisse.
Et pourquoi c'est important, ça?
Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, le fait de prendre une paroisse peut avoir un impact, pas seulement peu, mais un impact très important sur la vie fraternelle. Et notre vocation, c'est pas d'être berger, notre vocation, c'est d'être frère. Et ça, c'est différent. Et donc, notre premier témoignage, notre première mission, hormis la vie de prière qui est première, ensuite, c'est notre vie fraternelle. C'est de vivre en tant que frère et de témoigner, donc en tant que religieux, mais encore plus en tant que religieux franciscain, on est appelé à avoir un témoignage prophétique de la vie à venir.
Donc, si je vous suis bien, votre première mission, c'est de vivre entre frères et d'être vraiment un témoignage de cette vie fraternelle que vous avez entre vous, avant d'être frère avec ceux qui vivent autour de vous, quoi.
Exactement. Mais ça, c'est important parce que du coup, quand on parle aux jeunes de nos quartiers difficiles, qui ont l'expérience de vie familiale chaotique, avec des familles déconstruites, reconstruites. Quand je suis arrivé dans le Bronx, j'ai eu l'impression que tout le monde était demi-frère, demi-sœur, cousin, cousine, les uns des autres, parce que c'est tellement éclaté dans tous les sens.
Donc la première pauvreté, c'est ça, c'est celle d'une famille détruite.
Oui, oui. Mais du coup, quand on leur parle de pardon, etc., quand on leur parle, ça porte parce qu'ils nous voient vivre ensemble, avec quand même, ils perçoivent quand même des grandes différences de personnalité, d'origine, ne serait-ce que de nationale, mais aussi sociale, etc. Et ils voient que malgré tout, on arrive à s'entendre et être frères les uns les autres et ne pas s'entretuer. Et donc, du coup, quand on leur parle de pardon, de céder les uns les autres, ça porte un petit peu plus parce qu'ils voient qu'on le vit.
Quand vous dites quartier difficile, alors on entend les difficultés familiales, mais c'est quoi un quartier difficile?
C'est ce qu'on appellerait des UP en France, je crois, ou peut-être que ça a changé depuis, parce que ça fait 23 ans que je suis parti de la France, donc, mais des zones urbaines populaires, c'est-à-dire des zones où il y a des populations ayant un fort pourcentage de chômage ou bien des métiers qui avec des salaires très très bas, donc quand même des cités HLM, enfin c'est ce genre de quartier là. Donc avec cette difficulté familiale, il y a les difficultés économiques, éducatives.
Donc ça veut dire l'accès à l'école ou...
Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont ensemble. Donc c'est aussi des quartiers où il y a pas mal de violence. Sur New York, ce sont des quartiers où les gangs sont quand même omniprésents. Oui.
Donc il y a la drogue, la prostitution, la violence, le trafic d'armes peut-être, ou des genres de choses.
Voilà. Oui. J'ai entendu des coups de feu dans la nuit, pas très régulièrement, mais c'est arrivé. Et j'ai passé 2 ans après la formation initiale, je m'occupais des enfants du quartier, et quand ils arrivaient, que je voyais qu'ils avaient les valises sous les yeux, je dis « Oh, t'as pas bien dormi, toi, l'année dernière ?»« Ah bah oui, non, ils ont pas arrêté de se tirer dessus encore la nuit dernière. » Donc voilà, c'est vrai que il y a de la violence, la guerre des gangs, ça existe. J'avoue que j'ai découvert un petit peu ça parce que, ayant grandi en Normandie, dans une petite ville de 18 000 habitants, c'était.
Alors justement, c'est ça. Alors on reviendra sur votre parcours en deuxième partie de l'émission, mais quand même, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir. Au fond, là, je vous vois en face de moi, frère Charles Benoît, vous êtes tout souriant, vous avez l'air en pleine forme, et on se dit, mais qu'est-ce que des frères vont chercher dans des lieux comme ça? Au fond, quand vous êtes face à cette immense misère ou cette détresse même, à 8 ou 9 ou 10, je ne sais pas combien vous pouviez être au maximum de frères, mais c'est une goutte d'eau face à un océan de détresse, quand même.
Oui, mais en même temps, il y a un effet multiplicateur. Donc, c'est-à-dire, on s'occupe de quelques personnes, mais leur vie transformée rayonne et transforme d'autres vies également. Donc, et on ne mesure pas, heureusement, finalement, on ne mesure pas l'impact qu'on peut avoir. Mais donc de vivre auprès des populations les plus pauvres et d'essayer de remédier à certains des problèmes, c'est en fait remédier à des, enfin comment dire, notre apostolat, il y a un aspect matériel. Donc, on a un foyer d'accueil pour sans-abri à New York, on a des soupes populaires, un centre d'accueil pour les enfants du quartier pour des activités, soutien scolaire, choses comme ça. Mais toutes ces choses matérielles, c'est un prétexte pour être en contact avec ces populations, de manière à pouvoir témoigner. Alors, pour moi, si j'ai à résumer en une phrase la spiritualité franciscaine, c'est être témoin joyeux de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc voilà, ça résume un petit peu notre but, c'est d'amener les gens à faire l'expérience de l'amour du Père pour eux.
Et ça, c'est possible partout. Partout, il y a un terreau qui peut être fertile, sur lequel peut émerger l'amour de Dieu, vraiment.
Ah oui, 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 oui. Quand j'étais dans le Bronx, il y a un garçon qui est arrivé. Donc tous les samedis soirs, on avait un gymnase et donc portes ouvertes. Les jeunes du quartier pouvaient venir passer la soirée pour s'amuser, simplement. Règle très simple, se respecter les uns les autres. Donc ça veut dire pas d'injures, pas de bagarres. Et la règle la plus importante, s'amuser. Et un jour, il y a un garçon de 9-10 ans. Faut s'imaginer Mike Tyson en miniature. Et il est arrivé avec l'esprit de la rue, c'est-à-dire on se laisse pas marcher sur les pieds, enfin, etc. Son attitude était correspondait à ça, et donc très rapidement, il a fallu que je lui demande de partir, parce que forcément, quand on a cette attitude-là, on arrive à au moins se chamailler verbalement. Mais pour être, il a toujours accepté les conséquences de ses actes. Donc, il ne s'est jamais rebellé contre le fait que je lui demande de partir. Par contre, chaque semaine, il est resté plus longtemps. Jusqu'au jour où il a réussi à rester jusqu'à la fin. Et là, j'étais impressionné. Et dès qu'il est sorti, il s'est mis à se bagarrer avec un autre garçon qui était là ce soir-là.
Il explosait. C'est à cocotte minute qui...
Donc, je les ai séparés. Ils sont allés à l'autre bout du pâté de maison. Je les ai suivis. Je les ai reséparés à nouveau. J'ai dit à l'oncle de l'autre belligérant, qui était juste un ado, qui était là ce soir-là avec nous aussi, « Allez, tu le ramènes à la maison. Il est l'heure de rentrer. » Et j'ai dit à le mini Mike Tyson, son prénom c'est Lolo. Je dis « Lolo, il est l'heure de rentrer. » Faut savoir que Lolo n'a jamais connu son père et vivait avec sa maman qui se droguait et se vendait pour pouvoir payer la drogue, en gros. Donc il n'était pas le bienvenu à la maison. Et donc c'est pour ça qu'il passait le plus clair de son temps dans la rue avec les copains. Donc Lolo s'en va. Quelques minutes plus tard, j'entends une voix stridente. C'était la maman de Lolo qui cherchait l'autre garçon pour lui régler son compte à sa manière.
Il est où ? Il s'appelle comment ? Où habite-t-il ?
Et quand elle a compris que personne ne répondrait, elle s'est retournée vers son fils avec une litanie d'injures. « T'as encore posé des problèmes, je vais te mettre la tête au carré, tu vas voir ce que tu vas prendre quand on rentre. » Et encore, je dis ça très correctement, comparé à son vocabulaire. Et là, j'ai voulu intervenir pour lui montrer que Lolo avait fait d'énormes progrès et qu'en fait... oui, il y avait une bagarre, mais qu'il n'avait pas posé de problème toute la soirée. J'ai pas pu dire plus de deux mots. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle s'est tournée vers moi, elle m'a fusillé du regard, littéralement, et elle m'a dit « Toi, le moine, ta gueule, rentre dans ton couvent, la messe est dite, je veux pas t'entendre. » Et encore, je dis ça d'une manière correcte, la traduction édulcorée, on va dire. Et donc, elle m'a coupé le sifflet, et la seule chose que j'ai pu dire, en regardant Lolo directement dans les yeux, et je dois dire que quand elle a parlé, j'ai vu une transformation, j'ai vu Lolo, son visage, se transformer avec un mélange d'effarement et de profonde tristesse. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est de lui dire directement en le regardant dans les yeux, « Lolo, j'ai essayé, Lolo, j'ai essayé. » Donc ça, c'était samedi soir. Le lundi après-midi, il vient au centre, à l'heure du soutien scolaire. Alors, il allait à l'école, mais de là à faire ses devoirs et venir au soutien scolaire, il ne faut pas exagérer quand même. Donc c'était la première fois qu'il faisait ça. Donc, ouais. Et la première chose qu'il a demandé, ça a été de me parler. Donc... je me suis assis avec lui et j'ai entendu un petit bonhomme de 10 ans me dire « Je suis venu pour m'excuser de ce que ma maman t'a fait. » Je connais Jésus, elle ne connaît pas. Et elle n'a rien ni personne pour l'aider. Donc, un petit bonhomme de 10 ans qui prend la responsabilité d'action, des actes d'un
qui
adulte.
Qui assume, oui. Ouais. Qui assume à la place de l'adulte.
Exactement. Mais, en plus, qui me parle d'un Jésus, et sa manière d'en parler, c'est pas « je connais des choses à propos de Jésus ». Non, non, il m'aide. Et elle ne le connaît pas. Et je me suis posé la question, comment Lolo a fait la connaissance de Jésus? Et en fait, c'est simplement en venant au centre, où on lui a permis d'être un enfant de 10 ans, où il n'avait pas besoin de regarder par-dessus l'épaule pour voir s'il y avait quelqu'un qui était prêt à le tabasser ou quoi que ce soit, et où il avait le temps de pouvoir être vraiment un enfant et jouer. Et on le faisait simplement au nom de Jésus, vu qu'on commençait simplement avec une petite prière genre bénédicité, mais pas pour la nourriture, mais de bénir le temps, les jeux, etc. Donc il savait qu'on le faisait au nom de Jésus.
Donc, comme il avait du temps, il avait aussi du temps pour ouvrir son cœur.
Ben voilà. Donc, je raconte un petit peu cette histoire parce que je pense que ça illustre bien, en fait, le cœur de nos apostolats. C'est pas forcément des grandes choses flashy, mais par des petites choses, un contact régulier, pas forcément quotidien, mais au moins une fois par semaine, ou enfin, voilà, forger une relation, et à travers ça, sans forcément prêcher la bonne nouvelle, mais simplement en la vivant, eh bien les gens qu'on sert le perçoivent.
Un grand merci à vous, frère.
Merci beaucoup, Anne-Rose.
Voilà, c'était frère Charles Benoît, qui est franciscain du Bronx, qui était de passage dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes il y a quelques semaines. Il était interrogé par Anne-Rose Jankovic. La suite de Présence Midi, dans un instant, c'est avec Clémence Roux, qui sera de retour pour le journal régional, juste après L'Autre Finistère, Les Innocents.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Toi, trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au retour de tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir sourd. Il est un estuaire, un fleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. Oh,
l'autre Finistère, c'était La Voix des Innocents. Au cœur des baronnies, à Bourg-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, le père Gabi Lagurgue s'investit dans le monde rural. Originaire du Béarn, il a été ordonné dans les années 70. Un engagement fort auprès des prêtres du Prado à écouter dans un instant au micro de Benoît Guillard. Ça sera juste après l'essentiel de l'actualité régionale avec le journal. Le journal présenté aujourd'hui par Clémence Roux. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, à Toulouse, l'homme mis en cause dans l'agression de plusieurs policiers a été placé en détention provisoire. Au moment des faits, le suspect s'en serait pris aux forces de l'ordre. Il aurait par la suite déclaré entendre des voix. L'enquête doit maintenant permettre de mieux comprendre son geste et les circonstances précises de cette agression. Dans les Hautes-Pyrénées, la police a découvert 5 travailleurs en situation irrégulière dans un hôtel de Lourdes. Les 5 personnes auraient été cachées dans l'établissement lors de l'arrivée des policiers. Les investigations se poursuivent pour connaître leurs conditions de travail et déterminer des éventuelles responsabilités. Dans le Tarn, les pompiers ont été fortement mobilisés face à un important incendie près de la Cabarède. Environ 170 pompiers ont été engagés pour lutter contre les flammes et éviter une nouvelle progression du feu. Sur place, les fortes chaleurs et la sécheresse ont rendu l'intervention plus difficile. En Haute-Garonne, l'État veut mieux contrôler l'origine des fruits et légumes proposés dans les commerces. Des produits importés peuvent parfois être présentés comme venant de France. Une pratique dénoncée par les agriculteurs locaux qui parlent de concurrence déloyale. Les contrôles sont donc renforcés pour vérifier les étiquettes et s'assurer que les consommateurs connaissent bien la véritable origine des produits qu'ils achètent. Et enfin, toujours en Haute-Garonne, la sécheresse fragilise certaines habitations. À Fourquevaux, des propriétaires ont vu des fissures apparaître sur les murs de leur maison. Lorsque la terre devient très sèche, le sol peut bouger et endommager les bâtiments. Et quand la pluie revient, ces mouvements peuvent continuer. Plusieurs habitants ont donc décidé de se regrouper, notamment face aux difficultés rencontrées pour obtenir une prise en charge des réparations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité régionale. Bonne journée à tous sur Radio Présence.
Merci Clémence Roux. Retour de l'info sur notre antenne dans une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Je vous rappelle que ce samedi, nous serons en direct du sanctuaire de Lourdes pour vous faire vivre la retransmission de la messe internationale à l'occasion du 153e pèlerinage national de l'Assomption au sanctuaire de Lourdes. Une messe internationale qui sera présidée par Mgr Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Donc, retransmission à écouter ce samedi sur Radio Présence entre 10h et midi. Les commentaires seront assurés par David Torchella. Et puis vous qui êtes dans la région, eh bien, vous pouvez bien évidemment venir au sanctuaire de Lourdes pour assister à cette messe. Allez, dans les prochaines minutes, direction les Pyrénées avec Anne Lasserre. Le regard des écrivains sur les Pyrénées cette semaine. L'auteur qu'a sélectionné Anne Lasserre s'appelle Anne Listier. Ce sera juste après Benoît Guillard avec sa chronique verte. Il reçoit cette semaine le père Gabi Lagurgue. Quand je dis cette semaine, c'est une rediffusion puisqu'il l'a reçu il y a quelques semaines, puisque cet été, nous vous proposons de réécouter les meilleurs moments de l'année sur Radio Présence.
Présence.
Bonjour, donc nous voici aujourd'hui dans cette nouvelle chronique, Chronique Verte, avec moi-même et Benoît Guillard, et puis donc aujourd'hui le père Gabi Lagurgue. Alors, on va bien préciser où on se trouve. On se trouve en fait au cœur des baronnies, à Bourg-de-Bigorre précisément, au presbytère, à la maison du presbytère de Bourg-de-Bigorre. Et donc Bourg-de-Bigorre se situe à une trentaine de minutes de Lannemezan et une vingtaine de minutes de Bagnères, en plein cœur des baronnies. Et le père Lagurgue, c'est un père très investi depuis très longtemps dans le rural, et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'échanger un petit peu sur sa vision sur la pastorale en rural et sur tout ce qu'il a pu vivre et mettre en œuvre autour de ce qu'a porté notre pape dans son message, dans son dialogue avec tous autour de Laudato Si, donc et en particulier la conversion écologique. Bonjour cher Gabi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Peut-être bon, 2 mots de présentation sur qui tu es et puis tes investissements au travers des mouvements différents et ton regard sur le rural et la pastorale rurale.
Bonjour Benoît et bonjour à ceux qui écouteront aujourd'hui. Mais je suis Gabi Lagurgue, originaire d'un petit village entre Salis de Béarn et Saint-Palais, donc au bout du Béarn, les Pays Basques. Arrivé ici dans les baronnies dans les années 70, ordonné prêtre en 72 dans la prairie qui jouxte ce jardin, dans une cathédrale de verdure, il faut dire comme cela. Et puis, venu aussi dans les baronnies, avec un engagement, enfin d'abord une insertion dans ces baronnies, enfin auprès d'autres prêtres qui étaient des prêtres du Prado, qui donnaient un signe déjà, enfin je crois important, de vivre ensemble dans les baronnies, dans ce presbytère. Vous verrez peut-être quelques photos quelquefois, et avec l'objectif de prendre une place, mais de prendre une place comme tout citoyen d'abord, et aussi comme prêtre. Donc ces baronnies étaient vouées, disait-on, à une certaine mort, parce qu'il y avait peu de reprises, surtout dans l'agriculture. Les baronnies, dans les années 70, étaient à dominante rurale, mais surtout agricole. Et peu à peu, étaient en train de muter avec des gens qui allaient travailler sur Bagnères ou sur Tarbes ou sur Lannemezan. Mais continuant quand même toujours à garder leurs petites exploitations, parce que c'était leur histoire, c'était le patrimoine qu'ils ne voulaient pas dissiper. Et moi je suis venu dans ce pays, et c'est vrai que j'avoue que ce pays m'a redonné vie, parce que j'avais vécu une certaine mort à travers les études, essentiellement toujours dans des villes, alors que j'étais d'un petit village. Et là, c'est vrai que la langue du pays, qui n'était pas tout à fait la mienne, le Bigourdan n'est pas tout à fait le Bernais, mais la langue du pays, et puis aussi ces prêtres investis auprès des gens, tout simplement en vivant avec eux, auprès d'eux, et pour eux et aussi pour eux-mêmes. Et ensuite, ces prêtres étant aussi liés à des mouvements, l'ACE, le MRJC, le CMR, des mouvements ruraux, et des prêtres étant liés au Prado, à l'association des prêtres du Prado. Et je crois que c'est, pour moi, ça a été un petit peu ces trois piliers qui m'ont aidé à m'épanouir, à m'éveiller, et puis aussi à commencer à réaliser une vie autre.
Alors Gaby, je sais que tu as contribué fortement effectivement au développement des mouvements d'action catholique. Aujourd'hui, tu es très près effectivement, comme tu l'as dit, du CMR, MRJC. Tu as contribué activement aussi avec Mission Rurale à l'organisation Terre d'Espérance, acteur très dynamique sur justement cette préparation. Et on a vu que les baronnies avaient énormément de témoignages autour de Terre d'Espérance. Pourquoi un petit territoire comme celui-ci est si riche en acteurs et en témoins et en fraternité autour de difficultés et des fragilités de ce territoire?
Je crois que ce qui fait la force un petit peu aujourd'hui des baronnies qui étaient, qu'on disait, un petit peu vouées à la mort dans ces années 70, 75, ont repris une certaine vie parce que les gens, en côtoyant les gens, en découvrant un petit peu leurs racines, mais aussi leur manière de vivre, et aussi un idéal de vie, vivre simplement mais avec des produits de qualité dans ce qu'ils faisaient, faisait en sorte que ce pays voulait vivre. Un slogan qui est resté fort dans les années 86, quand Noël le gars est arrivé, il y avait une rencontre des 26 villages, puisque les baronnies c'est 26 villages, avec le document qui s'appelle l'Arc-en-Ciel, qui est là depuis 65, on en parlera sans doute un petit peu plus après, le journal qui rejoint toutes les familles, toutes les maisons des baronnies, plus 800 à l'extérieur. Ces baronnies, le slogan c'était « Les baronnies veulent vivre ». Et ça c'est important. Et nous, on s'est situé toujours, c'est pour ça que je ne suis pas trop à l'aise quand on dit Gabi, au Noël, mais c'est un collectif. Quelquefois, il y a cette dimension collective qui a permis qu'on puisse réaliser. Bien sûr, comme dans toute équipe, dans tout groupe, il y a parfois des meneurs, suiveurs, il y a aussi des suiveurs, mais il y a aussi des accompagnateurs. Des fois, on est en locomotive, des fois, on est tout simplement en wagon, et des fois, on se fait traîner aussi un petit peu. C'est comme ça pour tout le monde. Mais moi, j'ai toujours refusé de dire Gabi, il a fait ça, il a fait ça. Non, il n'a rien fait tout seul. Et les initiatives qui ont été prises et qui continuent à être prises aujourd'hui, elles sont toujours une œuvre collective. Et ça, je pense que c'est important à retenir pour aujourd'hui et pour demain. Le rural s'en sortira s'il est uni, enfin, avec, dans ses différences, mais en même temps aussi avec de certaines visions de la vie, de la société et aussi de la culture dans ce pays.
Alors justement, Gabi, puisque tu l'évoquais, le souci, c'est aussi d'entrer en dialogue avec tous. Et donc, avec Noël, vous avez depuis longtemps maintenant mis en place ce journal. Tu peux nous en dire un peu plus et voir un petit peu ce que ça représente aujourd'hui pour ce territoire ?
À l'origine, le journal, il vient de la première équipe de prêtres qui est arrivée ici dans les Baronnies dans les années 65. Avec Jean-Jacques Barrère, qui est toujours là, Jean-Jacques Barrère, il y avait aussi Henri Fréchoux qui est décédé, hein, Joseph Fachan et une quatrième qui était du Prado, mais qui est reparti, est un pied noir, et qui est reparti vers Marseille. Donc, ils sont restés à trois. Les Baronnies étaient très divisées, appartenaient aussi à des cantons différents, à des administrations différentes, et le journal qui est né voulait relier ces villages entre eux d'abord et puis permettre en même temps que se développe aussi enfin une certaine idée de certaines idées de, qui pouvaient être développées en accueillant aussi ce que les gens disaient et ce qu'ils vivaient réellement et puis en le traduisant. Le journal, il est bon, je vais peut-être le faire voir que à Laurent là, mais le journal, il est l'arc-en-ciel des Baronnies avec il est créé entièrement par les gens du pays quoi. Il y a une équipe d'une douzaine à quinzaine de personnes qui se retrouvent pour le réaliser 5 fois dans l'année avec toujours ce sont les paroisses des Baronnies, mais en même temps c'est vrai que bon, il y a des gens disent il n'y a pas grand chose de religieux là-dedans. En fait, pour nous, tout est religieux. C'est-à-dire, la religion, ce n'est pas uniquement une pratique du dimanche, mais c'est une pratique de l'évangile. Et l'évangile, au jour le jour, il est là pour donner du sens à ce que l'on fait, nous, suivant les convictions de chacun, qu'on respecte, et des convictions différentes. Et moi, c'est vrai que j'avoue que quand je suis arrivé ici aussi, il y a deux phrases, je les redis souvent, deux phrases qui m'ont accroché pour vivre dans ces baronnies, c'est une phrase de Saint Jean, au chapitre 10, verset 10. « Je suis venu, dit Jésus, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et puis, ça c'est un petit clin d'œil aussi, c'est Saint Luc, après l'annonce à Marie, et l'ange Gabriel, mais j'y suis pour rien là, l'ange Gabriel dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, à la limite, dans les baronnies, c'est l'ouverture à tout le possible. Tout est possible, à la limite. Et tant qu'il y aura des hommes qui vont se battre pour les faire vivre, je crois que tout peut bouger encore dans les baronnies. Beaucoup de choses ont bougé, mais beaucoup de choses encore doivent et peuvent bouger.
Oui, effectivement, on peut dire que justement ici, sur ce territoire où il y a une vraie conversion écologique qui est vécue au quotidien, cette conversion, elle conduit les croyants à développer une certaine créativité. Et on l'a vu effectivement à la Barthe de Nesle, lorsqu'il y a eu la préparation Terre d'Espérance, où vous aviez convoqué un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de témoignages autour de justement cette créativité et cette volonté de faire changer les choses au nom de la maison commune. Et aujourd'hui, ça perdure, puisque encore aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages et d'acteurs qui sont sur ces baronnies et qui continuent à investir sur cette démarche un peu innovante et enthousiaste.
Ce n'est pas toujours très simple, parce que là, moi, j'ai quitté les baronnies, j'ai passé les baronnies 28 ans au début, et puis j'ai quitté les baronnies, je suis revenu, là, ça va faire bientôt 4 ans, à la retraite, hein, mais toujours actif, et avec Noël Gaille maintenant, et les baronnies ont beaucoup changé. C'est vrai qu'en 20 ans, la moitié de la population a changé. Quand je suis parti en 98, il y avait 2000 habitants dans les baronnies. Aujourd'hui, il y a encore 2000. Mais Noël me dit, mais j'en ai enterré 1000. Mais il y en a toujours 2000, c'est pas un miracle. Ça veut dire que 1000 personnes sont venues pratiquement de l'extérieur pour vivre dans ces baronnies. Et pour toi, à la recherche peut-être d'une maison, à la recherche d'un cadre de vie, à la recherche aussi d'une possibilité, de possibilités diverses de vivre dans ces baronnies. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que l'artificiel joue ce rôle-là, important je crois, de permettre que toutes les initiatives de ces gens qui viennent d'arriver, souvent artisans, petits agriculteurs, petits éleveurs, des initiatives très différentes dans le soin, dans la santé, enfin, viennent là et on est à l'affût. Bon, Noël surtout est à Noël, il est toujours à l'affût de ceux qui viennent s'installer là et pour leur donner la parole, pour les d'abord les accueillir, et c'est important, les accueillir, savoir qu'ils sont les bienvenus dans ces baronnies et leur donner la parole pour dire ben voilà, présentez-nous vos initiatives. Et puis votre initiative, et puis on les mettra dans le journal. Et puis, si vous voulez, on fait un peu de pub. Et là, enfin, quand les gens viennent dans le baronnie, ils disent aussi qu'on va trouver un électricien, qu'on va trouver un plombier. Mais, les gens lui disent naturellement, vous regardez l'artificiel, il y a tout dedans. Et c'est vrai qu'il y a, à peu près 60-70 artisans, enfin, agriculteurs qui sont là avec le petit carré, le petit rectangle de pub fait, qui vise ce qu'ils font. Quoi. Et ça, c'est important. Donc, développer créer ce lien entre les anciens enfin, ou alors les natifs on va dire comme ça et puis les nouveaux venus et c'est pas simple et je crois que je vois par exemple bon mais à Bad Serre existe ils viennent de faire les trois lundis de Bad Serre. Bad Serre doit être à peu près avec 30-35 habitants résidents. Trois lundis en suivant, il y a 500, 800, 1000 personnes qui viennent dans ce petit pays et pour vivre quelque chose aussi de différent. Voilà. Et c'est des petites réalisations comme ça. Tout le monde, des baronnies, des anciens des baronnies, ils ne font pas tous, mais enfin, ils commencent à se créer pas mal de liens aussi entre eux. Mais ça, le rôle aussi de l'Église, le rôle de l'Évangile, c'est bien aussi de créer ce lien et puis de développer les liens entre eux si c'est possible.
Alors, ce qu'on peut dire quelque part, Gabi, c'est que dans les baronnies, on vit l'expérience Laudato aussi au quotidien.
Je crois que oui. Mais là aussi, bon, mais simplement, je crois, en développant les possibilités de ce pays, en permettant aussi d'essayer de chercher, de ne pas gaspiller ce que l'on fait, parce qu'ici, ce pays n'a jamais été bio, mais tous les produits, les productions des gens ont été simplement faites parce que les gens disaient, mais nous, on mange ce que l'on produit, donc si on en vend un peu en plus, on va pas faire, mettons, des pommes de terre pour nous et des pommes de terre pour vendre. Non, c'est les mêmes. Donc, on essaie de vivre une certaine écologie raisonnée aussi, parce que tout n'est pas raisonnable non plus, enfin, quelquefois. Mais on va dans ce sens-là. Et si aujourd'hui, les gens des baronnies viennent, ou d'ailleurs viennent et disent, bon, mais ces baronnies, elles sont vraiment vertes. Et c'est vrai qu'elles sont vertes. Bon, il y a eu quand même un peu d'eau, même si les agriculteurs ont eu du mal cette année à faire les foins parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon, il y a une forme d'écologie et le pape, bon, mais peut-être c'est pas suffisamment su, mais le pape insiste pour que la manière de vivre, la simplicité de vie, l'économie aussi de beaucoup d'énergie fasse que ce pays à sa manière vive et contribue à la vie. Je voudrais ajouter à peine un petit mot, on dit souvent ici, c'est de l'ordre du petit, mais comme a dit un certain monsieur Rabbi, ben voilà, enfin, chacun essaie de faire sa part, sa petite part.
Alors, pour terminer avec cet entretien, Gabi, je sais que tu prépares avec un certain nombre de prêtres et de laïcs une grande manifestation le 7 octobre à la Cité Saint-Pierre, Semeur du Changement. Bon, Semeur du Changement, c'est un petit peu la prolongation de Terre d'Espérance ?
Oui, je crois. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important, je pense, à dire. C'est dans notre insertion de prêtres dans ces pays-là. Je crois qu'on n'est pas là uniquement pour le dimanche. Ce que vivent les gens, on essaie de vivre avec eux. Participer avec eux, des fois participer au chant, participer quelquefois aussi à les associations d'agriculteurs, d'artisans, enfin tout ce qui peut se faire, tout ce qui donne un peu de vie, on y est proche et des fois bien bien engagés. Ils sont aussi l'aide à domicile, c'est important aussi. Et on a réalisé en 2021 une belle journée, enfin à la Barthe de Nest, avec une quarantaine d'initiatives porteuses d'espérance, on disait. On va renouveler cette rencontre là, le 2 septembre à la Nemezan, pour voir qu'est-ce que sont devenues ces initiatives qui ont été montrées là, il y a 2 ans. Et puis, plusieurs parmi nous ont participé aussi à Terre d'Espérance à Châteauneuf-de-Galore, là, dans la Drôme, avec plus de 400 expériences, 400 initiatives, et comme ça c'est important. Et donc si le 7 octobre à Lourdes, et c'est déjà un appel que l'on peut faire, mais il sera redonné par d'autres, on a fait passer aussi quelques tracts déjà depuis quelques jours, si le 7 octobre peut être aussi une rencontre forte pour le diocèse, la dimension diocésaine est là, je crois que c'est important. Parce que, enfin, il faut aussi des moments forts, pour pouvoir s'appuyer dessus et pouvoir repartir avec un nouvel élan. Et je pense que les orientations que nous donneront aussi notre évêque et le conseil épiscopal, je pense qu'ils iront aussi dans ce sens-là, d'une forme d'engagement au niveau du rural, mais aussi de tous les espaces ruraux.
Merci Gabi. Nous sommes à la fin de ce temps partagé. Alors, pour les auditeurs, nous sommes au milieu d'un jardin merveilleux, le jardin qui est aussi la passion de Gabi, hein, la main verte Gabi. Et donc, on vous donne rendez-vous si vous voulez prolonger cette rencontre avec Gabi, le 7 octobre, puisque bien sûr il sera présent à la Cité Saint-Pierre pour cette manifestation qui s'appellera Semeur de Changement. À bientôt, Gabi.
Merci.
Voilà, merci à Benoît Guillard et au père Gabi Lagurgue. Hein. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait d'une rediffusion, entretien enregistré donc l'année dernière, en 2025. Donc, Gabi Lagurgue, qui est au cœur des baronnies à Bourg-de-Bigorre, ça se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées. Un grand merci donc à Benoît Guillard pour la rediffusion de cette chronique. La suite de Présence Midi dans 10 minutes. L'actualité nationale sera de retour, avec la rédaction française de Radio Vatican. Pour le moment, on prend un peu d'altitude, direction les Pyrénées et le regard des écrivains sur les Pyrénées. Anne Lasserre et Philippe Supercas.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
C'est une bien curieuse affaire qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette chronique. Nous embarquons donc dans la machine à remonter le temps, car elle nous fait retourner en août 1838 pour parler, je le disais, d'une curieuse affaire.
Oui, Philippe, il s'agit de savoir qui a atteint officiellement le sommet du Vignemale en premier, Anne Lister ou le prince de la Moscova.
Pour le savoir, nous partons rejoindre Anne Lister, qui est née en Angleterre en 1791. Elle ne tenait pas en place et elle voyagea longuement à travers l'Europe. Par 2 fois, elle est venue dans les Pyrénées, la première fois en 1830 et la deuxième en 1838.
Oui, et aujourd'hui, Philippe, nous la rejoignons en août 1838, alors qu'elle vient de gravir le Vignemale. Elle vient de réaliser une première, la première ascension touristique du Vignemale, le 7 août.
Mais apparemment, cette première accomplie par une femme ne fut pas du goût de tout le monde. Et on attribua au prince de la Moscova la première du Vignemale le 11 août 1838, c'est-à-dire 4 jours plus tard.
Tout a été fait effectivement pour passer sous silence l'ascension réalisée par Anne Lister. Mais comme nous allons l'entendre, elle n'avait pourtant pas l'intention qu'on lui vole cette première touristique.
Voilà, donc je pense qu'on va parler du procès avec vous, puisqu'il n'y a pas été avec à la demi-mesure.
Elle est prête, oui, à faire un procès.
Et à croiser le fer. On vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Au 19e siècle, les Pyrénées s'imposent dans leur dimension verticale. Le 7 août 1838, l'Anglaise Anne Lister est la première à gravir officiellement le Vignemale en compagnie des guides Jean-Pierre Charles, Jean-Pierre Sajous, Henri Cazot. Elle devance ainsi le prince de la Moscova, fils du maréchal Ney, qui réalise le même exploit le 11 août, accompagné aussi de guides, dont Henri Cazot. L'un des guides, envoyé en avant, fait disparaître la bouteille dans laquelle Anne Lister avait laissé une preuve de son ascension. Voici ce qu'elle note dans son journal le 14 août 1838, quand elle apprend la nouvelle. Au cours de notre promenade à Gèdre dans l'après-midi, Charles m'a appris que Cazot avait trompé le prince de la Moscova en lui disant que je n'avais pas été au sommet, que je m'étais trouvé mal sur le glacier et qu'en conséquence, je n'avais pas été plus loin que le petit pic, alors que les guides avaient été au sommet, à l'exception de Charles qui avait éprouvé lui aussi un malaise. Je fus très ennuyée de cette nouvelle et je décidai de ne payer Cazot que quand la question serait mise au clair. Avais-je été, oui ou non, au sommet ? Si je n'y avais pas été, il fallait que ce soit prouvé. S'il n'y avait pas de preuve, alors je n'aurais pas à le payer. En fin d'après-midi, nous allâmes à Luce et j'envoyai Charles s'entretenir de la question avec le prince. Celui-ci le reçut et lui montra la lettre que Cazot lui avait écrite pour attestation que je n'avais pas été au plus haut sommet, m'étant arrêté au sommet inférieur. Cazot avait bien trompé le prince et celui-ci ne voulait pas l'admettre. Cazot lui avait donné le laurier, ce qui était fait était fait. Il semblait ainsi soutenir Cazot et il se montrait fâché par la démarche que Charles faisait auprès de lui. Il se montrait déterminé à garder la palme que Cazot lui avait attribuée. Le prince dit aussi à Charles qu'il n'y avait pas de bouteille au sommet. « Mais, lui demanda Charles, un homme de Gèdre n'a-t-il pas été au sommet avant vous, en passant le long du glacier ?» Et le prince de répondre qu'on l'avait rappelé et qu'il était revenu avant que le sommet ne soit atteint. Charles ajouta que les trois guides de Luce disaient que cela n'avait pas été le cas. L'homme avait fait semblant de ne pas entendre et il avait poursuivi sa marche. Il avait alors brisé la bouteille. Cazot avait précisé que c'était lui et son beau-frère qui avaient élevé le tas de pierres lors de leur ascension, mais cela était faux puisque c'était Charles et Pierre qui avaient entouré la bouteille de pierres. Quelle étrange petite affaire. Dans ces conditions, je devins très déterminée à ne pas payer Cazot tant qu'il n'aurait pas attesté que j'avais été au sommet. Il fut convenu que le lendemain, Charles et Pierre verraient Cazot pour lui faire signer le certificat de mon ascension et ensuite le payer. On avait en effet écrit sur une feuille de papier anglais, extraite de mes carnets de notes, ce qui suit. Moi, Henri Cazot de Gèdre, je certifie que j'ai conduit sur le pic culminant du Vignemale la dame anglaise Anne Lister avec ses deux guides, Jean-Pierre Charles et Jean-Pierre Sajous, tous les deux de Luce, le mardi 7 août 1838, donné à Gèdre le 15 août de la même année en présence de témoins. Charles lui-même s'était proposé de le voir à Gèdre à l'auberge en présence de témoins pour s'entretenir de la question le verre à la main et obtenir qu'il reconnaisse les circonstances de l'ascension publiquement. Charles, de retour de Gèdre, vint me trouver à 4 heures et nous conversâmes pendant plus d'une heure. Il n'avait pas trouvé Cazot chez lui. Il y était, il n'y était pas, qui sait ? Il croyait qu'il avait dit à l'aubergiste de Gèdre palacé que je n'avais pas été au sommet. Charles était d'avis de consulter un avocat. Il y en avait deux à Lourdes. Je réfléchis à cette idée et le lendemain, j'étais d'accord. Des deux avocats, Charles avait choisi Maître Latapie, qui était le plus ancien et le plus important. Je lui racontai l'affaire à propos de laquelle je venais demander son avis. La cause n'étant pas très sérieuse, c'était une affaire de sentiment. Je me sentais un peu vexée. Comment retrouver ma dignité ? J'avais atteint le sommet du Vignemale et cela m'était contesté. Je demandai à l'avocat de me rédiger un certificat. Il le fit d'accord avec moi et il me recommanda de ne payer Cazot que quand il aurait signé. Alors j'ajoutai, et s'il refuse de le faire ? En Angleterre, je pourrais la signer devant le juge et celui-ci réglerait la question. après avoir entendu les deux parties. Eh bien, dit l'avocat, vous pouvez faire de même en France. Dans ce cas, vous chargerez-vous de l'affaire, maître ? Oui, si l'homme ne veut pas signer, envoyez-moi Charles avec le certificat et je préparerai le procès. Quelques pages plus loin, Anne Lister précise qu'Henri Cazot a signé le certificat. Elle écrit également qu'elle ne se bat pas pour la gloire, mais au nom de la vérité. Toujours est-il que si les Pyrénées ont fait couler beaucoup d'encre, ce n'est pas seulement l'encre des écrivains, des voyageurs et des pyrénéistes, mais aussi celle des avocats. Le passage retenu est écrit par Anne Lister, extrait de « Première ascension du Vignemale », ouvrage publié par les éditions Cairn en 2012.
C'est pas parce que je chante avec l'amour aux lèvres, c'est pas parce que je tente de caresser mes rêves, que je passe à côté des misères de ce monde. Comme toi, je sais bien que la roue est cruelle, comme toi, à la fin, je m'y brûlerai les ailes. Qui cherche la lumière doit embrasser les ombres. Et tant pis, si je tombe, je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse, bien sûr mon cœur s'emballe au cri des SOS, mais ce soleil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non, je préfère me blottir contre ceux qui n'ont rien, nous aider à bâtir de meilleurs lendemains. C'est ainsi que je suis.
Présence à Saint-Gaudens 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Vladimir Poutine s'est rendu dans les îles Kouriles en Extrême-Orient, cette première visite du président.